Se pensi che gli anni non andan a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à vous qui êtes dans les passages. Une émission qui rencontre tous ceux qui s'interrogent sur le sens de l'existence. Tous ceux qui sans cesse remettent en question les savoirs explicatifs. Tous ceux qui habitent dans l'espace des frontières. C'est pour cela que depuis le début, le fil rouge qui nous guide dans le labyrinthe des passages, c'est la curiosité de l'infantile guidée par la double fonction de parentalité. Une bienveillance exigeante pour en contenir les excès et une exigence bienveillante pour le guider sur la route vivante qui avance. Nous sommes dans le studio Gisèle Halimi de la radio Esprit Occitanie avec à la technique Grégor. Alors, aujourd'hui, l'émission est un peu particulière parce que je vais avoir le plaisir d'accueillir prochainement dans cette émission, une étudiante de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Depuis bientôt 2 ans environ, la radio Esprit Occitanie construit un partenariat avec cet institut. À cette rentrée de septembre, il a été demandé à chaque animateur s'ils accepteraient de recevoir des étudiants intéressés par le thème de l'émission. Et c'est ainsi que Samantha m'a contacté. Samantha complète ainsi son parcours professionnel par ce travail dans cet institut, car son mémoire de master en histoire et sociologie porte sur les conditions sociales des usagers de la psychiatrie. Nous avons commencé à échanger et son projet rentrant dans le cadre d'un journalisme d'investigation sur la question complexe de la santé en général, santé qui se décline entre la santé physique, celle du corps, et la santé mentale, celle de notre esprit, est en grande cohérence avec l'émission des passages qui aborde depuis le début les relations entre l'infantile et le parental. J'ai pensé que pour prévoir les prochaines émissions où Samantha pourra être présente, qu'il était peut-être important que je relise ce que j'avais pu proposer le 7 avril 2023 pour vous inviter à entrer dans l'émission des passages. Bien sûr, à la radio, on n'a pas l'écriture, donc tous les jeux de mots que peuvent représenter les mots que l'on entend, passage pouvant s'écrire P-A-2-S-A-G-E-S, hein, mais aussi pas, plus loin, sage. De même, l'émission, je vais les écrire L-E-S, plus loin, M-I-2-S-I-O-N-S. Nous, les passages, nous avons une drôle de mission ou de drôles de missions à remplir. N'ayez pas peur d'entrer dans cette émission. Mais il est vrai que si l'on n'est pas sage, on est mis au coin. Être mis au coin, c'est être mis à la marge, être mis en bordure. Quand on est enfant, on nous dit que c'est pour réfléchir. Alors nous, adultes, réfléchissons ensemble si nous autorisons à être dans ces passages. Être mis au coin, ou se mettre au coin, se décentrer du monde extérieur pour mieux se centrer sur le monde caché de l'intérieur. D'habitude, on est tout seul quand on est mis au coin. Et puis on est encore petit. C'est en général parce qu'on a fait une grosse colère. Et comme on ne peut pas se débrouiller tout seul, ceux qui nous mettent au coin pensent qu'on va revenir en demandant pardon. Ils pensent qu'on va rentrer dans le rang. Ils pensent qu'on va rentrer dans le moule, dans la case, où ils pensent que nous devons être. Ils pensent qu'on va se sentir coupable de ne pas vouloir y entrer. Et puis on grandit. On réalise que cette case, on n'en veut pas forcément. Surtout quand on les voit vivre, eux, les adultes. Ce n'est pas trop tentant de les suivre. Alors, on cherche son propre chemin, à la marge, dans les bordures, dans les chemins de l'école buissonnière. Au début, on peut se sentir un peu tout seul, mais très vite, on s'aperçoit qu'on rencontre du monde dans ce drôle d'endroit mal défini. C'est que c'est un endroit sans limite. Et puis, il grandit au fur et à mesure qu'on avance. On nous a fait croire que la marge, c'était une bordure, une frontière. Alors, tu es soit d'un côté, soit de l'autre. D'un côté, tu serais soi-disant chez toi, en fait, c'est chez eux, et de l'autre, tu serais un étranger. C'est comme si tu n'avais pas le choix, te font-ils croire. Il faut choisir ton camp. Et si tu restes trop longtemps tout seul dans ton coin, au bout d'un moment, tu craques. Tu finis par aller d'un côté, puis de l'autre. Tu fais des allers-retours entre les deux, c'est le plus fréquent. Ça donne l'impression d'être libre de ses mouvements. Mais l'embêtement, c'est qu'au bout d'un moment, et parfois ça prend des années, tu t'aperçois que tu fais du surplace. Un pas en avant, un pas en arrière. Un pas à droite, un pas à gauche. C'est toujours un pas de côté. Jamais un pas de danse en avant. C'est comme si tu réalisais un jour que tu n'avais pas pris ta vie en main. Tu as passé ton temps à fuir d'un côté puis de l'autre. Et donc, l'engagement dans une direction qui donne du sens à ta vie reste une question qui se pose. Alors le fait de se retrouver dans l'émission des passages permet d'échanger nos impressions à partir de lectures, à partir de musique. Et aujourd'hui, c'est encore avec la trajectoire d'une chanteuse que je souhaite partager avec vous la problématique de l'infantile et de l'adolescence. Cette chanteuse, c'est Lassa de Sela. Sous son nom des albums, c'est Lassa, qui est une chanteuse à la voix grave et douce, qui nous a quittés en 2010, à l'âge de 38 ans. Elle est née dans l'État de New York en 1972, d'un père mexicain et d'une mère d'origine russo-polonaise, mais de nationalité américaine. Son père était écrivain et professeur d'espagnol. Sa mère était photographe. Lassa a vécu une enfance nomade entre le Mexique et les États-Unis à bord d'un bus reconverti en caravane avec ses trois demi-frères et ses trois demi-sœurs en plus de ses trois sœurs directes. Cette vie de bohème a rendu son mental, son appareil psychique, sa psyché, pour d'autres on pourrait dire son âme, ils l'ont rendue bouillonnante, instinctive, sans cesse à chercher, curieuse du chemin de l'existence avec exigence. C'est dans son deuxième album, sorti en 2003, qu'elle a intitulé The Living Road, la route vivante, où elle chante dans ses trois langues de cœur, l'espagnol, le français et l'anglais, que j'ai choisi de partager avec vous trois de ses chansons. La première que nous allons écouter s'appelle « La marée haute ». C'est une belle métaphore de la vitalité de son infantile créateur qui l'habite, puisqu'elle chante « Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez de place ».
La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas, la route se tait. La route est noire à perte de vue. je fais trois pas. La route n'est plus sur la main haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le corps n'a pas assez. Sur la main haute, je suis montée.
Lassa dans son espace des passages et sur une route vivante. Si la route chante quand elle s'en va, c'est peut-être le plaisir de l'émancipation, de pouvoir quitter la famille, de pouvoir quitter l'enfance. Mais si la route se tait quand elle fait trois pas, c'est peut-être le signe d'une carence de parentalité. D'autant que si la route est noire à perte de vue et si la route n'est plus quand elle fait trois pas, c'est que ses repères sont probablement pas suffisants. Jusqu'au moment où elle fait trois pas et elle est dans la rencontre et tu es là. Alors la première expérience qui saute aux yeux, c'est que on est effectivement plusieurs dans l'espace des passages. Si on est plusieurs, c'est que ça n'est pas une frontière, c'est un endroit, un espace. On peut l'appeler un no man's land, une terre qui n'appartient à personne. Un endroit qui ouvre un espace, un endroit qui crée un troisième espace qui appartient à tout le monde. On n'est pas obligé d'être d'un côté ou de l'autre. On est au milieu, ni dedans, ni dehors. C'est pour ça qu'il est psychologiquement mal défini. On pourrait dire sans domicile fixe. Mais du coup, il nous rend libres. Libres de dormir à la belle étoile ou d'aller de cabane en refuge sans préjugés ni a priori. Nous avons chacun notre vécu dans cet espace intérieur qui échappe aux limites extérieures. Si bien qu'au fil du temps et des croisements, il ne cesse de se raconter, de se dessiner, de se chanter de plein de façons différentes. Mais quand on réside entre deux frontières, eux, ils disent qu'on est apatride. Nous, on va dire qu'on appartient à un État où le pouvoir appartient à chacun en fonction de ses moyens. C'est pour cela qu'on devient nous-mêmes des États limites. C'est là que ma rencontre avec la journaliste d'investigation que va nous apporter le regard de Samantha pourra nous aider à travailler le registre entre où est la limite de la psychiatrie, où est la limite de nos troubles qu'il nous faut accueillir et aborder en posant la question « c'est quoi la santé ?» Avant, pour ne pas être fou, il fallait être névrosé. Mais aujourd'hui, puisqu'on refuse de rentrer dans le moule, on va rentrer dans les passages. Rimbaud écrivait « Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre ». Comme on l'avait évoqué dans d'autres émissions, la poésie sauvera le monde, mais la poésie n'a pas sauvé Rimbaud de son propre devenir. Il s'en allait les poings dans ses poches crevées. Son paletot aussi devenait idéal. Il allait sous le ciel. Que d'amour splendide il a rêvé. Son unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, il égrenait dans sa course des rimes. Son auberge était à la grande ours. Ses étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Il les écoutait, assis au bord des routes, où il sentait des gouttes de rosée à son front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques comme des lyres, il tirait les élastiques de ses souliers blessés, un pied près de son cœur. Alors, c'est avec beaucoup d'intérêt que je partagerai dans les prochaines émissions les troubles des adultes sur lesquels Samantha fait des rencontres, prend leurs témoignages. Ces adultes qui, au moins pour un temps, relèvent de soins psychiatriques, mais pour lesquels se pose la difficile question de la chronicité. Un trouble, un syndrome psychiatrique, est-ce le signe d'une maladie chronique ou est-ce plutôt la question d'une personnalité qui a besoin encore de se construire, de remettre en question sa structure, son appareil à penser? Mon parcours de médecin m'a conduit à écouter le passé de toutes ces personnes qui, un jour, se trouvent face à un psychiatre. Je me suis dit qu'elles étaient en droit de savoir ce que je considérais comme un état de bonne santé. Le fameux « Bonjour, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu ?» Un corps en bonne santé est a priori un corps silencieux. Un corps qui n'envoie pas de message de souffrance. Mais un psychiatre est censé s'occuper du mental, de l'esprit. Et peut-être pour ne pas tomber dans l'ésotérisme de l'âme, le psychiatre a fait du mental un appareil psychique en lien avec le cerveau. C'est lui d'abord qui contient des émotions, des affects. Puis l'appareil psychique se construit avec des représentations, des souvenirs. Et puis pour nous les humains, avec du langage complexe qui forme des pensées, des croyances, qui débouche sur des savoirs, des certitudes, mais aussi des doutes, qui se structure avec de la rationalité, mais aussi avec de l'imaginaire. J'aime bien cette petite prose de Michel Tournier. Il écrit « Maître cerveau sur son homme perché tenait dans ses plis son mystère. À mesure que la neurologie avance dans la connaissance des 12 milliards de cellules qui forment la substance grise, on voit s'épaissir ce mystère et progresser la conscience de notre ignorance. En vérité, chaque nouveau progrès de la neurologie fait reculer le domaine propre de l'âme et de son immortalité désincarnée. Oui, le cerveau est mémoire, et donc temps. Il a besoin de temps pour se faire, mais le temps le ronge aussi. Le cerveau, c'est l'esprit fait chair. » Alors, je me suis demandé Comment pouvez-vous parler de cette santé mentale que j'étais censé rendre à une personne quand elle vient me trouver et qu'elle est en face de moi? Ce qui est devenu un postulat, une certitude de départ à toute réflexion, c'est qu'un mental en bonne santé n'est pas du tout un mental silencieux. C'est même le contraire. Être en bonne santé, c'est aller suffisamment bien pour pouvoir accueillir tout ce qui ne va pas forcément bien, toutes nos émotions dites complexes comme l'angoisse, la colère, le chagrin, la culpabilité, la honte. La bonne santé mentale, c'est avoir un appareil psychique capable d'accueillir tous ces affects-là, jusqu'à des moments de violence, jusqu'à des moments de dépression, y compris peut-être aussi des moments d'isolement, sans vouloir les faire rentrer dans les troubles du spectre autistique. En écoutant le passé, on s'intéresse forcément à l'histoire de la personne, à sa famille, sa conception, sa petite enfance, son adolescence. Alors on devient médecin psychiatre pour enfants, préoccupé de son développement psychologique. Là, on est bien obligé de lier la bonne santé mentale d'un enfant avec sa capacité à accepter les contraintes et à supporter les frustrations. Cela m'a conduit à être d'abord psychopédiatre, bien plus rarement que pédopsychiatre. Et c'est comme ça que j'ai compris l'importance de l'infantile et donc de la double fonction de parentalité. Lorsque nous grandissons, c'est un peu comme Lhasa lorsqu'elle met en parole, dans son émancipation, sa volonté d'arriver à la ville pour y verser sa vie.
Moi aussi. Moi aussi. J'arrive à la ville pour y verser. On me j'arrive la main vide. Au sud du nord, au nord du sud,
Comment interpréter les paroles de Lassa ? Monter la rue comme un géant. Arriver en fuyant parce qu'on est encore loin devant. Être caché par la ville sans que personne nous trouve. Ne pas se servir de son passé et arriver les mains vides. N'est-ce pas l'infantile de son enfance de bohème qui est resté bien présent dans ses chansons ? Le manque de cadre environnemental amène l'enfant à se créer sa propre parentalisation, de façon autodidacte, individuellement, souvent dans le registre de la création, mais sans forcément acquérir suffisamment de notoriété pour en vivre. Toutes les émissions précédentes s'interrogent sur l'origine du parental qui se construit à partir et face à l'infantile. C'est toute la question de la famille et de ses rôles. Dans beaucoup d'endroits encore, la famille a la charge de construire de la survivance collective. En Occident, depuis la Déclaration universelle des droits de l'individu, celui qui devient adulte est responsable, la famille doit aider chaque enfant à s'individualiser pour prendre sa vie en main, tout en emportant avec lui l'héritage transmis par sa famille. Le 28 novembre aura lieu au cinéma Utopia de Tournefeuille une projection unique du film du cinéaste taïwanais A Liang. Il a intitulé son film Holy Family, une sainte famille. C'est un titre qui fait à la fois référence aux croyances taoïstes de la famille taïwanaise, mais aussi de façon plus laïque, à l'humanité des liens familiaux. Une humanité au-delà des conflits, des silences, des addictions, des malentendus. Le réalisateur semble avoir eu besoin de s'émanciper de cette famille pour chercher sa route vivante. Le film produit en 2022, après 20 ans d'absence, vient du fait que le réalisateur ressent le besoin de revenir auprès de sa famille et de partager en le filmant le quotidien de ses parents, de son frère et de son neveu. Cette délicate et bouleversante chronique raconte la réconciliation familiale, celle de son individualité de cinéaste, culpabilisé d'avoir mis à distance ses origines, celle de son appartenance à l'infantile collectif de ses parents. C'est peut-être là que se joue la violence des rapports quand le masculin de l'homme se confronte au féminin maternel. Les récits mythologiques en sont le témoignage. Le 17 novembre dernier, il y a un an maintenant, nous avions invité Gérard Pierlot, professeur émérite de psychopathologie psychanalytique à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, pour aborder avec lui les troubles narcissiques. Pour éclairer ces troubles avec l'éclairage de la nymphe Écho, qui permet de mieux interpréter le mythe de Narcisse. Puis en décembre, nous avions abordé le complexe d'Œdipe, avec au-delà d'Œdipe, le complexe de Jocaste. Et enfin, en janvier 2024, nous avons complété la reprise des récits mythologiques avec l'épopée de Gilgamesh et les trois métamorphoses dans Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Le récit de la Genèse fait même porter à Ève la culpabilité du péché originel pour avoir accédé à la connaissance du pouvoir de procréation de son corps féminin, laissant dans le flou l'origine de la semence. Une chanson de Lassa qui me touche particulièrement parle de la culpabilité féminine face au grand sens de l'honneur et au beau sourire du masculin.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur, avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur. Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Se sentir coupable, mais en ayant le droit à l'erreur, n'est-ce pas nécessaire durant l'enfance pour apprendre le difficile chemin de la responsabilité? Alors les prochaines émissions se feront en compagnie de Samantha. Elles proposeront des rencontres et des échanges, avec des invités aussi, pour partager ensemble nos éprouvés face à cette question « C'est quoi être en bonne santé ?» Alors à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
T'inganni, se pensi che gli anni non hanno da finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parsi gradita, è breve gioire, bisogna morire, non val medicina. Non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non valion sperate, minarie bravate, che calia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova.